à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G 100.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct retrouve Rose pour vous faire découvrir son expérience en Corps-Européen de Solidarité en Sardaigne, ainsi que son voyage grâce au dispositif Discover You. Bonjour Rose.
Bonjour.
Alors, dans l'émission précédente, tu nous avais raconté tes études au Québec et en Espagne, et maintenant tu vas nous parler de ton volontariat. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est le CES ?
Alors le CES, c'est le Corps européen de solidarité et c'est un programme qui a été planifié par l'Union européenne. Et en fait, c'est une plateforme qui offre des missions de volontariat pour les jeunes ressortissants de l'Union européenne qui ont entre 18 et 30 ans. Et on retrouve différents types de projets, des missions humanitaires, des missions de solidarité et des missions de volontariat. Et donc moi, j'ai fait une mission de volontariat. Et ces missions peuvent durer de 2 semaines à 1 an maximum, mais on peut accumuler les projets jusqu'à avoir fait 1 an de volontariat en tout. Il y a plein de domaines différents qui peuvent entrer dans le Corps européen de solidarité. On a des projets liés à l'éducation, la formation, la créativité, culture, l'environnement, la démocratie. Donc il y a vraiment plein de choses pour tout le monde. Et à la fin, on reçoit un Youth Pass. C'est une reconnaissance officielle de l'Union européenne et en fait qui certifie de notre engagement volontaire. Et donc ça peut être attaché à notre CV si on le souhaite.
Et donc toi, à quel projet tu as pu participer et sur combien de temps ?
Moi, j'ai participé à un projet qui se situé à Cagliari en Sardaigne. Donc Cagliari, c'est vraiment la ville la plus au sud et la plus grande ville de Sardaigne. C'était un projet qui durait 3 semaines avec l'association TDM 2000 International. Donc c'est une ONG européenne qui promeut l'engagement et la coopération des jeunes partout en Europe. Et donc nous, on venait pour un projet spécifique qui s'appelait Connessioni 2025. Donc Connessioni en italien, ça veut dire connections, relations, voilà. Et en fait, on était une équipe d'une dizaine de volontaires, donc de partout en Europe. Il y avait une Irlandaise, une Autrichienne, une Allemande, une Espagnole, une de Lituanie, une Finlandaise et une Polonaise, et 2 Françaises. Notre activité principale, c'était d'organiser cet événement. Donc on devait organiser des ateliers en lien avec les droits humains et l'engagement des jeunes dans la société, et aussi sensibiliser au programme de mobilité de l'Union européenne.
Comment ça fonctionne concrètement, le CES ? Comment on fait pour participer à ces missions de volontariat ? Et aussi, est-ce que c'était facile pour toi de trouver une mission ?
Alors, donc, la première étape pour participer au CES, c'est de créer son compte sur le portail européen de la jeunesse. Et à partir de ce portail, on a accès aux différentes initiatives de l'UE pour les jeunes. Et donc, on peut accéder à la plateforme du CES. Et après, une fois qu'on est sur cette plateforme, on crée notre profil. Donc, on doit répondre à certaines questions sur notre parcours académique, sur nos expériences professionnelles, sur notre motivation, notre niveau en langue. Donc, ça prend pas trop de temps à remplir. C'est des petits paragraphes qu'on doit écrire. Et après, une fois que notre profil est complet, on peut postuler aux missions de volontariat, donc sur la même plateforme, et on peut mettre des filtres selon le pays où on veut aller et selon le domaine. Et pour moi, ça a été assez facile et rapide de trouver une mission. J'avais postulé environ 5 projets, je crois. Mais c'est vrai que je conseille vraiment de postuler un maximum de projets pour être sûr d'être pris quelque part. Et pour le projet Connessioni, j'avais été sélectionnée 2 semaines avant. Donc, c'était vraiment une procédure assez rapide. Et les temps de réponse sont souvent pas longs.
Et comment ça s'est passé, ton intégration au sein de l'association qui t'a accueillie et de l'équipe de volontaires européens ?
Au sein de l'équipe de volontaires, ça s'est vraiment super bien passé. On était vraiment une équipe très interculturelle et cosmopolite. Il y avait vraiment beaucoup de pays de l'UE représentés. Et puis, donc, on a commencé à apprendre à se connaître par des activités brise-glace, des échanges sur nos pays, échanger sur nos cultures et tout. Et c'est vrai qu'on a appris très vite à se connaître parce qu'on faisait tout ensemble et aussi on vivait ensemble en coloc. Enfin, on était 5 volontaires dans le même hébergement. Donc, en fait, vu qu'on faisait tout ensemble, même en dehors des heures de volontariat, on a très vite appris à se connaître. Pour ce qui est de l'intégration au sein de l'association d'accueil, on a été bien intégrés, mais c'est vrai qu'on on restait plutôt entre volontaires. On n'était pas vraiment intégrés à l'équipe de salariés de l'association.
Et donc, tu es partie en mission en Italie. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières concernant l'italien, la barrière de la langue? Est-ce que tu aurais des petits conseils pour des personnes qui souhaitent aller en Italie et qui parlent peut-être pas ou très peu italien?
Donc, dans le cadre de ce projet-là, la langue de communication, c'était l'anglais. Donc, il n'y avait pas trop de difficultés par rapport à la langue. Mais bon, même pour ceux qui ont peur par rapport à leur niveau en anglais, enfin, moi, je trouve qu'il ne faut vraiment pas se mettre de pression parce que il faut garder à l'esprit que l'anglais, c'est une langue maternelle pour très peu de citoyens en Europe. Pour la plupart, c'est une langue qu'on apprend en grandissant à l'école et tout. Donc, chacun a son propre accent, chacun a son niveau. Et on arrive aussi à se comprendre sans problème. Pour l'italien, c'est vrai que c'était un peu compliqué dans les situations du quotidien de pas parler italien parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Italiens qui parlaient anglais. Enfin, en tout cas, à Cagliari, mais peut-être que dans d'autres régions en Italie, c'est différent. Mais si on apprend les mots de base, on réussit à se débrouiller. Et aussi, on avait de la chance parce que dans notre équipe, il y avait des volontaires italiennes qui nous ont beaucoup aidés à traduire. Surtout, par exemple, pour les réservations d'activités, de restos et tout, elles nous aidaient beaucoup. Donc, c'était quand même utile.
Donc, dans le cadre du CES, il y a pas mal de frais qui sont pris en charge. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche ?
Oui, donc en tant que volontaire par le Corps européen de solidarité, on reçoit de l'argent pour couvrir nos frais de voyage. On est supposé nous payer le billet aller et retour de transport. De la France vers l'Italie, on avait un forfait de 309 € pour l'aller-retour. Donc si on dépasse, on doit payer la différence. Mais généralement, ça couvre les frais de voyage. Pour l'hébergement, c'est l'association d'accueil qui doit nous trouver notre hébergement et aussi payer le loyer. Enfin, on n'a pas de frais à débourser pour ça. Et on n'a pas de recherche à faire, donc ce qui est très pratique. On reçoit aussi de l'argent de poche. Donc, le montant de l'argent de poche, ça dépend de chaque pays. En Italie, on a reçu 250 € pour 3 semaines. Mais c'est vrai qu'après, si on va dans des pays où le niveau de vie est plus élevé, on recevra plus d'argent. Et aussi, certains repas étaient couverts. Voilà. C'est vrai que c'est super parce que ça permet de alléger notre budget et de voyager pour pas cher, tout en découvrant le pays.
Tu as sans doute pu découvrir la cuisine italienne et plus particulièrement la cuisine sarde. Est-ce que tu aurais des spécialités à nous conseiller ?
Oui, alors pour les plats typiques de Sardaigne, j'ai testé les culogiones. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Mais c'est des raviolis traditionnels de Sardaigne à base de pommes de terre, fromage, oignons et menthe. Et c'était franchement super bon. J'ai aussi testé les frigola et les maloredus. Enfin, je ne sais vraiment pas si ça se prononce comme ça, mais c'est des pâtes typiques sardes qui ont une forme particulière. Et ça, je n'ai pas testé, mais je sais qu'en Sardaigne, ils mangent de la viande de cheval. Et j'étais très surprise, mais c'est assez... Enfin, on en trouve dans les restaurants typiques. Et puis après, pour des plats plus typiques d'Italie en général, j'ai testé là-bas pour la première fois les cacio e pepe. J'ai adoré, c'est excellent. Et le cornetto de pistacchio. Donc voilà, très bon aussi.
Et est-ce que tu aurais aussi des recommandations de choses à visiter pour découvrir la Sardaigne, parce que tu as peut-être pu explorer cette île en dehors de tes heures de volontariat?
Oui, j'ai vraiment bien visité la ville de Cagliari. Pour le coup, c'est une ville à taille humaine et on avait vraiment le temps de la visiter. On a aussi pu découvrir les plages autour de Cagliari qui sont aussi très très belles. Et on a pu se baigner en octobre dans la Méditerranée. L'eau est transparente, enfin, c'était vraiment incroyable. Après, c'était un peu difficile d'aller en dehors de Cagliari, vraiment plus loin parce qu'il faut tout de suite une voiture. Et on n'avait pas forcément le temps en une journée de faire les déplacements. Et aussi pendant la semaine de l'événement Connessioni, là pour le coup, on a vraiment beaucoup travaillé, donc c'était pas possible de visiter en dehors. Mais c'est vrai que j'aimerais revenir en Sardaigne pour visiter le centre de la Sardaigne et tout le nord que j'ai pas pu voir. Mais on a quand même pu visiter tout ce qui était autour, quoi.
Et lors de cette expérience en CES, est-ce que tu as fait des rencontres marquantes ?
Oui, j'avais rejoint le projet un peu sans trop d'attente vis-à-vis des rencontres et de l'équipe et tout, mais en fait, ça a été une surprise super positive. En fait, on a vraiment créé des liens très, très forts entre les volontaires et très vite, parce que c'était en seulement 3 semaines. Mais c'est vrai que le fait qu'on vive tout ensemble, qu'on fasse toutes les activités en dehors du volontariat ensemble, bah, ça nous a vraiment, ça nous a rapprochés très rapidement. Et à la fin, bah, je me suis surprise à avoir construit des amitiés super fortes. Et donc, je suis trop contente parce que c'est des contacts, je pense, que je garderai. Et donc à la fin, c'était vraiment émouvant de se dire au revoir. Mais bon, ça fait partie du jeu de participer à ce genre de projet.
Et qu'est-ce que cette mission, en dehors de nouvelles amitiés, a pu t'apporter personnellement et ou professionnellement ?
Sur l'aspect personnel, bah, j'ai vraiment pu faire des rencontres et des amitiés très marquantes avec des personnes de partout en Europe. C'est ça qui est trop chouette. Et puis, ça m'a apporté de l'épanouissement et un enrichissement personnel par le voyage, la découverte. Je pense que j'ai aussi gagné en confiance en moi. Enfin, quand j'ai dû organiser, par exemple, des ateliers en anglais où fallait parler en public. Donc, ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort. Et sur l'aspect professionnel, j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais. J'ai aussi pu améliorer des soft skills, donc parler en public, travailler en équipe multiculturelle, aussi gagner un peu en compétences d'organisation, de planification d'un événement. Et aussi, j'ai pu agrandir mon réseau avec la rencontre d'autres ONG en Europe et d'autres jeunes travailleurs qui étaient présents pendant l'événement.
Bon, on se doute de la réponse, mais est-ce que tu recommanderais ce dispositif pour d'autres jeunes qui voudraient voyager en Europe ?
Oui, vraiment, je recommande ce dispositif pour plein de raisons. Bah, déjà, c'est un lieu de rencontre avec d'autres jeunes Européens, ce qui est vraiment super chouette. C'est aussi un moyen peu cher de voyager, puisque le budget, une bonne partie du budget est pris en charge. Aussi, ça permet d'avoir un cadre dans notre volontariat. Il y a une structure d'accueil qui doit respecter des règles et qui doit nous suivre pendant tout notre volontariat. Donc, on n'est pas non plus laissé totalement en autonomie. Donc, ça reste encadré. Et puis aussi, je le conseille parce qu'il y a tellement une diversité des missions. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte et peut trouver une mission qui l'intéresse. Ça permet aussi de voyager tout en donnant un sens à son voyage. Et tout en s'enrichissant à la fois sur le plan personnel et professionnel.
Merci Rose pour ce début de témoignage donc sur le CES. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. We'll be right back. Vous êtes bien sur Radio G, vous écoutez l'Europe dans le micro. On reprend le témoignage de Rose. Rose, tu es également partie découvrir l'Europe en train grâce au dispositif Discovery You. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'est ce dispositif ?
Oui, donc Discovery You, c'est aussi un programme de l'Union européenne qui offre chaque année aux jeunes européens qui sont dans l'année de leurs 18 ans des billets de train gratuits pour voyager partout en Europe. Et donc, en fait, ça prend la forme d'un pass Interrail qui est à gagner chaque année. Et l'objectif, c'est de faire découvrir les pays européens, leur culture et leur patrimoine.
Donc, concrètement, comment on fait pour tenter de gagner ce pass Interrail ?
Donc, chaque année, il y a deux périodes de candidature pour tenter de gagner un pass. Il y en a donc une période au printemps et une période à l'automne. Et pour candidater, ça prend la forme d'un petit quiz, mais qui est très facile à remplir. On retrouve cinq questions assez générales sur l'Union européenne. Et il est possible de candidater seul ou en équipe de quatre personnes maximum. Donc, pour participer, il faut avoir 18 ans. Donc, le prochain round, ça concernera les candidats nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008. Et il faut aussi être citoyen ou résident d'un pays membre de l'UE. Mais il y a aussi des pays hors UE qui sont inclus dans le programme. Il y a l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Et si on est sélectionné, après on est totalement libre de planifier l'itinéraire et la durée de voyage qu'on veut, en sachant que la durée maximale, c'est un mois pour voyager. Okay.
Et donc, quel a été ton itinéraire quand tu as gagné ce pass Interrail ? Quelles villes et pays tu as pu visiter ?
Donc j'étais partie à l'été 2023 et j'étais partie pendant 2 semaines. Je suis partie de Bilbao en Espagne, puis après je suis allée vers Milan en Italie en passant par le sud de la France. Après de Milan, je suis allée à Venise. De Venise, je suis allée à Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie. De Ljubljana, je suis allée à Budapest en Hongrie. Ensuite, après Budapest, je suis allée à Vienne en Autriche. Après Vienne, je suis allée à Prague en Tchéquie. Et ensuite, je suis retournée à Angers en traversant l'Allemagne en train, en passant par Paris. Et voilà.
Donc, tu es partie seule. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui voyageraient seuls ?
Oui, ce n'était pas prévu que je parte seule, mais comme j'avais gagné le pass, je voulais quand même l'utiliser. Et c'était la première fois que je voyageais seule. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Je pense que voyager seul permet parfois de rencontrer plus facilement du monde parce qu'on est plus ouvert à rencontrer d'autres voyageurs seuls que quand on est avec ses amis. En plus, j'avais utilisé une application Hostelworld qui permet de trouver des auberges où en fait il y a aussi on retrouve d'autres jeunes voyageurs et il y a une possibilité d'échanger par message et d'avoir directement leur contact. Donc c'est assez facile de rencontrer du monde. Après, ça restait quand même un challenge personnel. Il faut quand même être ouvert à l'idée que il faut apprendre à se débrouiller seul et apprendre à passer du temps seul aussi. Mais c'est vrai que le grand avantage, je dirais, c'est qu'au moins, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et de planifier le voyage comme on veut.
Et par rapport à l'hébergement, donc tu parlais des auberges de jeunesse, est-ce que tu es partie que sur ces options-là de logement ou différentes options?
Ouais, j'ai opté pour la plupart du temps des dortoirs en auberge de jeunesse. Donc c'est vrai que c'était souvent l'option la moins chère et en plus vraiment une occasion de faire des rencontres facilement. Et en plus, il y avait très souvent la possibilité de dormir en dortoir féminin. Donc pour les femmes qui voyagent seules, c'est quand même super utile et rassurant. Pour les auberges, je conseille d'utiliser les applications Hostelworld. Hostelworld, c'est vraiment super, super bien organisé pour rencontrer, pour prendre contact avec les autres. Et on peut voir aussi les systèmes de notation. Et sinon, j'avais aussi beaucoup utilisé Booking.
Donc, dans les différentes villes que tu as pu visiter, est-ce que tu as eu des coups de cœur particuliers sur des villes ou des pays et pourquoi ?
Je pense que mon coup de cœur, ça a été Prague. J'ai vraiment été surprise par la beauté de l'architecture et la beauté de la ville. Enfin, c'est vraiment une ville musée. J'ai adoré et j'aurais aimé passer un peu plus de temps. Donc, j'espère y retourner un jour. Budapest, pareil, c'est une ville magnifique et super dynamique. Je pense que pour les jeunes, il y a de quoi faire. Et en Slovénie, j'avais eu l'occasion de découvrir le lac Bled, qui est pas très loin de la capitale et qui est vraiment magnifique. En plus, la Slovénie, c'est pas très touristique pendant l'été, donc c'était aussi une super destination. Et ce que j'avais peut-être un peu moins aimé, c'était Milan, parce que je pense que j'avais un peu plus d'attente parce que enfin, j'en avais beaucoup entendu parler. Et Venise, j'ai aussi adoré, mais par contre, enfin, je suis partie en août et là, c'était archi bondé de touristes, donc pas le meilleur moment pour visiter, je pense.
Est-ce que ça serait le type de destination que tu souhaiterais refaire, mais peut-être hors saison pour
ouais, complètement.
Et est-ce que tu as pu faire des rencontres marquantes pendant ton voyage?
Oui, bah honnêtement, j'ai presque rencontré du monde dans chaque ville où je suis allée. Je pense que c'était aussi le fait d'être seule. Bon, après, il y avait plus ou moins d'affinités, mais via les auberges de jeunesse, on peut rencontrer quelqu'un. Et vu qu'on souvent on reste pas longtemps dans la ville, on organise vite une activité à faire ensemble. Par exemple, à Budapest, j'avais rencontré deux Allemandes qui, pareil, faisaient un Discovery You. Du coup, je me souviens qu'on avait mangé ensemble le soir dans l'auberge. Et c'est aussi, il y a pas mal de groupes sur les réseaux sociaux, Facebook ou WhatsApp, de tous les gens qui partent en Discovery You. Donc, ça permet aussi de se mettre en contact.
Donc là, le principe du pass Interrail, c'est que tu peux prendre le train librement. Mais comment tu as choisi ton itinéraire et est-ce que ça a été compliqué de planifier ce voyage ?
C'est vrai que l'itinéraire, je me souviens que c'était un peu un casse-tête quand j'essayais de le planifier. Parce qu'en fait, même si on a l'impression que deux villes sont proches sur la carte, parfois la liaison en train est vraiment pas bien desservie, ça peut être très long. Donc je m'étais beaucoup inspirée d'itinéraires sur les réseaux sociaux et de gens qui avaient fait déjà des interrails pour voir c'était quoi les meilleures liaisons et en deux semaines, qu'est-ce qui était le plus intéressant à faire. Donc moi, je conseille vraiment de prioriser les villes qu'on veut le plus visiter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais faire toutes les destinations qu'on veut. Enfin, après, ça dépend de la durée de voyage, mais il faut quand même faire des choix. Donc voilà, on peut aussi voir sur les groupes Discovery You, c'est quoi les itinéraires des gens et s'en inspirer. Mais en tout cas, je conseille vraiment d'avoir planifié son itinéraire avant de partir pour pas avoir de surprises dans la réservation des billets de train et aussi dans la réservation de l'hébergement. Enfin, moi, j'étais partie en août, donc c'était quand même une période touristique. Donc c'est vraiment important de réserver à l'avance pour pas se retrouver sans rien quand on arrive dans la ville. Et sinon, pour l'hébergement, moi, j'avais beaucoup regardé les notes et les avis pour être sûr que c'était des bonnes auberges. Et pour ce qui était des activités, pareil, j'avais regardé un peu sur Internet et les réseaux sociaux, c'était quoi les meilleures activités pour les jeunes et tout à faire.
Et pour le côté pratico-pratique, comment tu t'es organisée niveau budget ? Parce que donc Discovery U, ça prend en charge les frais de transport, mais après, tout le reste, c'est à ta charge.
Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de frais de transport à payer, sauf quand parfois il fallait payer des petites différences pour payer son siège. Dans certains pays, je me souviens qu'en Italie, il fallait payer en plus pour le siège. Sinon, en vrai, je conseille vraiment d'organiser son budget par thématique. Donc, prévoir un budget logement, prévoir un budget nourriture, un budget sortie activité et un budget souvenir, en sachant que certaines destinations sont plus chères que d'autres. Mais je conseille aussi de bien préparer son budget avant de partir, histoire de ne pas avoir trop de surprises, mais toujours prévoir une marge en cas d'imprévu, parce que bon, il y a toujours des imprévus en voyage. Et aussi prévoir du cash, ça peut être utile, surtout dans les pays plus à l'Est, le cash était beaucoup plus utilisé qu'en France, par exemple. Et aussi prévoir si dans certains pays la monnaie est différente. Par exemple, en Hongrie, ce n'est pas encore l'euro. Enfin, je ne sais pas si ça le deviendra, mais c'est toujours le forint hongrois.
Donc, tu parlais de mauvaise surprise. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant ce voyage ? Changement de dernière minute, barrière de la langue ou des problématiques plus de billets de train, par exemple ?
Globalement, pour mon itinéraire et l'hébergement, j'ai pas eu de gros changements. Enfin, tout s'est passé comme prévu. Juste pour le train, une fois, je m'étais trompée de date de billet de train. Donc, alors que je pensais vraiment que j'avais le bon billet. Donc, j'ai dû repayer mon billet. Donc, pareil, c'est pour ça qu'il faut un peu prévoir une marge dans le budget au cas où ce genre de choses arrivent. Mais sinon, tout s'est bien passé. Et pour la langue, j'ai pas trop eu de barrière de la langue, parce que c'est vrai que dans la plupart des auberges, on trouve des voyageurs de partout dans le monde. Et donc, c'était assez facile d'échanger en anglais. Et puis, donc, les villes que j'ai visitées, je faisais principalement les activités les plus touristiques, donc c'était très facile de trouver des gens qui parlaient anglais.
Et donc, après cette expérience, est-ce que tu recommanderais ce programme, donc Discover EU ?
Oui, absolument. C'est vraiment une super occasion de combiner plusieurs destinations en un seul voyage et de découvrir la diversité culturelle de l'Europe. Enfin, il y a tellement une diversité de cultures, de patrimoine, de paysages. Et je trouve que c'est trop bien de le découvrir en train. En plus, voyager en train, c'est quand même un des meilleurs moyens de transport par rapport à l'environnement. Donc, je conseille vraiment. Et c'est aussi... Je pense, si on organise bien son budget, un moyen pas trop cher de voyager, puisque le pass Interrail nous est offert. Et puis, une occasion de voyager avec d'autres jeunes, ses amis ou seuls.
Et pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui souhaiteraient voyager à l'étranger, mais qui n'osent pas ?
Je conseille vraiment à tout le monde de tenter de gagner ce pass Interrail avec Discover EU. Parce que je pense que le programme se veut inclusif. Le but, c'est vraiment de donner à tout le monde une chance de découvrir l'Europe. Et oui, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir l'Union européenne qui nous offre ce genre de programme. Donc, il faut vraiment en profiter. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter dans notre candidature de motiver notre profil en disant que justement, on n'a jamais eu l'occasion de voyager et que Discover EU, c'est une occasion de voyager pour la première fois. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Je pense que pour plein de jeunes, Discover EU, c'est le premier voyage en autonomie qu'on fait à 18 ans. Donc, j'espère que vous allez tous tenter et je suis sûre qu'à la fin, vous serez fiers de l'avoir fait et que ça vous donnera envie de voyager encore.
Un grand merci à toi, Rose, d'avoir répondu à nos questions. On espère que ce témoignage donnera envie aux auditeurs de découvrir à la fois le Corps européen de solidarité, mais aussi Discover EU. Pour rappel, la prochaine période de candidature, donc ça sera au printemps prochain, printemps 2026, et ça sera pour les jeunes nés entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2008. L'Europe dans le micro, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G. Let it go.